Bonjour et bienvenue sur ce cours sur le développement Office 365. Je suis Gaëtan Bouvray, je suis Tech Lead SharePoint et Office 365 chez Infinity Square. Je m'occupe d'architecture, de coaching, de formation et de développement sur ces plateformes. Je suis MVP SharePoint depuis 2008 maintenant. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur mon blog. Nous sommes maintenant au module 4. Notre plan de cours, le développement d'un add-in SharePoint, ce qu'on appelait donc une app pour SharePoint, une application pour SharePoint. Une application pour SharePoint, un add-in SharePoint, on en trouve principalement de deux types. Un type SharePoint Hosted, celui du bas. Ce type d'application, ce type d'add-in, c'est finalement une application directement déployée au sein de SharePoint, comme un sous-site SharePoint, un site SharePoint en tant que tel. Qui embarque ce qu'on appelle un app web, qui embarque tout un tas de JavaScript, de code HTML, CSS. Donc ça permet d'être hébergé et géré directement par SharePoint de A à Z. La principale limitation, c'est qu'on ne peut pas faire de code behind. Donc toutes les logiques métiers que vous voudriez intégrer dans votre application vont sûrement devoir se faire soit avec du code JavaScript, soit avec des appels à des API externes. L'autre type d'application qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est là-dessus que va porter le cours, c'est les applications de type cloud, provider hosted. L'idée, c'est que vous allez pouvoir héberger vos pages web où vous le désirez. Et donc, vous fournissez votre propre infrastructure. Vous allez pouvoir utiliser le code que vous voulez. Évidemment, ici, on va être en .NET et on va manipuler, on va utiliser le modèle objet client managé. Mais on pourrait aussi développer une application, un add-in pour SharePoint en PHP, en Ruby, Python, ce que vous voulez. Et on va faire des pages web qui vont s'intégrer ici aussi avec SharePoint de manière assez similaire à ce qu'on avait pour Office. On va avoir donc un dialogue avec SharePoint entre notre application et SharePoint au travers donc du modèle objet client, le CSOM, Client Side Object Model pour SharePoint. Donc c'est une API disponible en code managé, donc en .NET. Mais aussi disponible en REST, qui pourrait être utilisé et appelé par votre application pour interagir avec SharePoint, par exemple interagir avec le contenu des listes des sites, mais aussi utiliser un certain nombre de services disponibles dans SharePoint. L'intérêt, et c'est pour ça qu'on va se focaliser là-dessus, de cette app type cloud, provider hosted, c'est que justement vous pouvez avoir la main de A à Z sur votre application, son hébergement, mais aussi le code utilisé. Notamment, vous allez avoir tout le code behind, tout le code serveur désiré qui vous permet d'aller généralement beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait envisager avec une application de type SharePoint Hosted. On bascule sous Visual Studio. Voilà, et on va créer un nouveau projet. Cette fois-ci, une app pour SharePoint. Voilà, SharePoint App Dev. On va créer une petite application. Pour créer une application pour SharePoint, un add-in pour SharePoint, tout d'abord, on va devoir lui donner l'adresse du site de debug. Donc ça, si vous vous souvenez bien, quand je vous ai expliqué dans le module 1 l'installation, les prérequis pour l'environnement de développement, on s'est créé un portail, un tenant Office 365, et dans la partie SharePoint, la partie administration dans la partie SharePoint, on a créé une collection de sites un peu spéciale qui utilisait un modèle de type site du développeur. Voilà, quand elles vont s'afficher un jour. Je vais avoir donc le site des développeurs. Ou pas. Si vous vous souvenez, on avait donc ici dans SharePoint nos différentes. Tenant Office. Ici dans la partie SharePoint, on avait la liste de toutes les collections de sites de notre environnement. Et notamment, on avait créé une collection de type site du développeur ici, à cette adresse-là qui correspond à ce site. Voilà, je vais le garder ici. Donc cette collection de sites est particulière. En tout cas, le modèle de site ici utilisé est particulier puisque c'est un site de type développement. Et ça permet notamment de tester des applications en cours de test, en tout cours de dev, sans encore les avoir déployées pour toute l'entreprise. Ce qu'on appelle du side loading. Donc c'est cette adresse dont je vais avoir besoin ici pour la configuration de mon application. On est bien en provider hosted. Il va se connecter au site. Il va me demander les credentials. Voilà. Donc, je remets mes informations que j'ai enregistrées pour pouvoir déployer automatiquement pour tester mon application. Donc, il a bien détecté que j'étais sur le SharePoint Online. C'est vraiment la même approche après sur du on-premise. Le type d'application, ici, est techniquement une application web. On va plutôt partir sur du MVC. Et le mode d'authentification. Si vous êtes sur du cloud, sur du Office 365, gardez le premier choix. On va passer par de l'OAuth géré par Azure. Dans le cas d'on-prem, on va utiliser un certificat. C'est la principale différence entre les deux types d'hébergement, on-prem ou cloud. Donc, on va avoir un projet et une solution Visual Studio qui va être composée, là aussi, de deux projets, encore une fois, de manière très similaire à ce qu'on avait pour Office. Un projet qui va permettre de décrire mon application, ce qu'elle fait, et l'autre projet qui contient réellement le code de mon application. Voilà, donc on retombe sur un projet qui contient mon manifeste, qui va me permettre de décrire ce que fait mon application. Allez, tout aura fini de charger. Donc mon app manifeste, et là aussi j'ai un petit assistant, comme pour Office, qui va me permettre voilà, de l'éditer. Donc on retrouve un titre, un nom interne, un numéro de version, une icône qu'on peut mettre à jour. Ma page de démarrage, donc là aussi, hein, c'est comme le source location qu'on avait pour Office. Quelle est la page qui va être appelée lors de l'exécution, lors de l'appel à mon application. Une chaîne de caractères qui va être, une chaîne qui va être passée pardon, par URL à mon application. Généralement, on n'avait pas changé quoi que ce soit. Vont être passées à ce niveau-là un certain nombre d'informations par post et par get. Les informations, notamment l'authentification, la source qui appelle votre application, donc l'URL du site web par exemple, et tout un tas d'informations de ce type-là. Je vais pouvoir gérer les permissions aussi pour mon application. De quoi j'ai besoin pour fonctionner? Donc là, c'est un petit peu plus fin. On va pouvoir choisir par scope. Les scopes, ça peut être un site, ça peut être une liste, ça peut être un service disponible en SharePoint, même la recherche. Ce dont j'ai besoin, le niveau de permission nécessaire. Donc par exemple, j'ai besoin d'accéder aux informations au niveau d'un site web, en lecture, peut-être en écriture, ou voire en gestion. Ici, on va créer une petite application qui va permettre de créer des listes dans SharePoint. Donc j'ai besoin d'un niveau manage, ici, pour pouvoir bien fonctionner. Sachez qu'on peut cocher ici, au niveau des permissions, cette petite case à cocher, l'app only. Ça permet de faire des appels en tant qu'application, non pas en tant qu'utilisateur. Donc il faut coder différemment ensuite. On va voir ça un peu après, mais lorsqu'on va accéder à notre API, on va se faire passer en tant qu'application, non pas en tant qu'utilisateur. Ce que ça change, c'est que du coup, on va pouvoir appeler avec tous les droits. Là, tous les droits demandés pour l'application vont être utilisables lors de cet appel-là. En revanche, dans les appels plus classiques en tant qu'utilisateur, seules les permissions de l'utilisateur sont disponibles. Typiquement, ici, je fais une application qui a besoin des droits de création de liste, d'accord, au niveau du web. Je suis administrateur, je vais pouvoir installer l'application, super, je vais pouvoir l'utiliser. J'ai les droits suffisants, donc de toute façon, tout fonctionne bien. En revanche, un simple visiteur sur mon site va peut-être avoir envie de cliquer sur mon application. Ce visiteur n'a que des droits en tant que lecture. Donc, soit j'essaye d'utiliser les droits de l'utilisateur, auquel cas j'aurai un access denied, je ne pourrai pas créer la liste, et c'est normal, à l'arrière, tout va bien. On s'arrête là, mais on pourrait se dire, dans le cadre de cette application, sous couvert d'un certain nombre de règles préétablies, le simple visiteur peut créer une liste. Dans ce cas-là, on fait un appel en tant qu'application, ce qui va permettre d'élever les privilèges de la personne pour avoir les droits de l'application et créer notre liste et y arriver, surtout, contrairement à l'appel en tant qu'utilisateur. Bon, les prérequis, c'est surtout aussi potentiellement au niveau des capacités. Quels sont les services qui doivent être installés et disponibles, par exemple si on doit avoir la recherche ou les profils d'utilisateurs. Le reste étant plutôt pour la partie localisation et des appels, des API externes. Donc ça, voilà, ça va me permettre de spécifier mon application. Dans mon application web en tant que telle, donc c'est là où je vais avoir le code à proprement parler de l'application. Donc un add-in pour SharePoint, ça peut revêtir plusieurs apparences. C'est à minima, généralement un lien supplémentaire dans le menu, ou en tout cas une application qui est disponible dans l'ensemble du contenu du site, qui me permet d'accéder à une page, voilà, qui me propose un ensemble d'actions directement. Ça peut être aussi une petite web part, ce qu'on appelle aussi une app part. Donc un bout de page que vous allez pouvoir configurer un peu partout dans votre site. Ça peut être aussi l'intégration carrément dans les menus, dans le ruban par exemple. Donc pour avoir des actions supplémentaires et d'être appelé directement depuis par exemple une bibliothèque de documents. Voilà. Ici, on est dans un cas simple pour la peine. Notre application pour l'instant ne fait qu'une chose. Donc ma première action, index ici, va récupérer le contexte courant SharePoint. Donc ça, c'est un appel que vous allez faire à chaque fois. On va revenir juste après, mais on a des helpers qui sont déjà fournis pour vous aider à ça. Donc je vais pouvoir récupérer mon contexte courant. Donc là, on a un peu le parallèle avec ce qu'on fait généralement en développement plus classique SharePoint, qui est je récupère mon spcontext.current.web par exemple. Avec ce contexte-là, je vais pouvoir créer le contexte client. Pour appeler mon bout de code, pour interagir avec mon site. Donc ici, c'est là où vous allez avoir plusieurs méthodes. Si je fais un create app only client context, c'est que je vais faire un appel en tant qu'app, non pas en tant qu'utilisateur. Et vous allez ensuite avoir pour SP app web ou SP host. SP app web, c'est le mini site web qui peut être généré avec l'installation d'une application, d'un add-in. Dans le cas des providers sites, c'est assez rare qu'on ait à l'utiliser, mais c'est plus généralement plutôt le cas pour les SharePoint de site. Mais vous pouvez demander à créer une sorte de mini site web qui sera masqué, sur lequel vous pourriez déposer et manipuler du contenu. Bon, pour faire simple, la grande majorité du temps, vous ferez un appel soit en tant qu'app sur le SP host, donc le site dans lequel j'ai installé l'application, ou en tant qu'utilisateur, ici create user client context for SP host. Une fois que j'ai mon contexte, donc là c'est le contexte, c'est un objet qu'on a dans l'API cliente SharePoint. Une fois qu'on a ce contexte, eh bien, on va récupérer les informations qui nous intéressent. Cette récupération est un peu spécifique si vous avez l'habitude de développer en mode serveur, mais pas du tout en mode client. C'est un coup à prendre. C'est un mode asynchrone, donc en fait, on fait un peu ses courses, on demande ce qui nous intéresse au niveau des objets et les actions qu'on veut faire. Et une fois qu'on est d'accord, on va appeler dans notre contexte l'execute query qui va valider toutes les actions. En gros, on a un contexte client qui va être lié à une URL particulière de SharePoint, à qui on va demander un ensemble d'informations ou exécuter un ensemble d'actions. Tout ça va être sérialisé, va être mis en cache quelque part, sérialisé, et ne sera envoyé pour exécution qu'au moment de l'appel de cette execute query. D'accord? Donc si vous cherchez à manipuler votre utilisateur, ici par exemple on va récupérer l'utilisateur courant, ben, là vous avez un objet qui n'est pas initialisé, vous n'aurez aucune information. Donc on cherche à récupérer notre utilisateur courant. On va le charger, ça aussi très important, le load est nécessaire, donc on va charger les objets, on va charger une liste, on va charger des éléments de liste, on fait une requête, on va charger ici l'utilisateur. On peut potentiellement, si c'est facultatif, via des lambda expressions, limiter les informations que l'on désire récupérer. Donc ça, c'est de l'optimisation. Typiquement ici, ça se lit ainsi. Je récupère l'objet current user, qui est un objet type user, mais je vais récupérer que le title, qui est le nom de la personne, le display name en gros, de la personne. Donc je ne vais pas récupérer toutes les propriétés, ça permet de limiter les échanges entre SharePoint et notre application, et donc d'optimiser le tout. Une fois que j'ai exécuté la requête, je pourrai utiliser mon objet, et notamment sa propriété, pour la mettre ici dans le viewBag que je vais afficher. Donc ma première, si j'exécute mon application, pour l'instant, elle va juste me dire bonjour Intel. Voilà. Donc si je vais dans ma vue, je vais avoir un petit welcome et l'objet, la propriété de mon viewBag, le username. D'accord. Donc on va nous de suite vouloir aller un petit peu plus loin que cela. Donc, je pourrais déjà exécuter et avoir ce fonctionnement. Je vous l'ai dit, on va faire une petite application qui va permettre de créer des listes dans SharePoint. Donc pour ça, eh bien, je vais créer une nouvelle action. Voilà. Là-dedans, je vais sûrement passer par exemple un nom de liste. Voilà, list title, qui va me permettre de faire la création de ma liste. Dans cette méthode aussi important, il faut que je la décore forcément avec ça. Un filtre particulier SharePoint qui permet de récupérer tout le contexte et justement d'initialiser tout un tas de choses derrière. Donc ici, en gros, si vous avez besoin de manipuler l'API, préfixer, en tout cas décorer plutôt, avec le filtre adéquat. Et puis, on va rester en mode post. On va appeler notre méthode en mode post. Donc ici, je vais créer une nouvelle liste avec le titre. Donc je vais récupérer un peu la même chose. Voilà. Je vais récupérer le contexte courant. Je vais le faire en tant qu'utilisateur. Hein. Je n'ai pas coché la partie app, mais on aurait pu le faire. Et surtout, ici, donc je vais récupérer mon contexte client. Et je vais créer une nouvelle liste. Donc on passe par un objet, list creation information, que je vais initialiser avec le nécessaire, typiquement le titre de ma liste. Facile. Le type de la liste. D'accord. Alors c'est un entier, template type, voilà. On va faire une bibliothèque de documents, pourquoi pas. On peut encore avoir d'autres paramétrages, typiquement si on la met dans la barre des tâches, dans le menu de lancement rapide, pardon. Voilà, pourquoi pas. Et on peut mettre une petite description. Créer depuis mon application. Voilà. Ça n'est pas suffisant. Ensuite, il va falloir ajouter. Donc là, on a la description de ce qu'on cherche à créer. Et on va l'ajouter à notre site web au niveau des listes. La collection de listes. On va ajouter eh bien, ce qu'on vient de faire. Ça nous permet d'initialiser notre liste. Donc, on ajoute une liste. Il va me retourner. Enfin, on ajoute. Et on crée une liste à partir de ma définition. Ça va être mon retour. Encore une fois, si j'exécute ça, rien ne se passe tant que je n'ai pas mon execute query. Je peux imaginer aussi, dans cette liste, pour vérifier qu'on a bien tout réussi, je vais modifier le versioning. Par exemple, je vais ajouter les versions mineures et majeures au niveau de ma liste. Et je vais la mettre à jour. D'accord ? Donc là aussi, si je ne fais pas mon update, ça c'est par contre comme le code serveur, rien ne se passe. Une fois que j'ai fait tout cela, je vais pouvoir faire mon execute query. Voilà. Si jamais je voulais faire afficher une information de ma liste, par exemple ma liste nouvellement créée, il va falloir que je la charge pour qu'elle soit initialisée. Donc je vais devoir faire mon load de ma nouvelle liste. Et par exemple, on va mettre dans le viewBy, pourquoi pas ma liste ID, qui devrait être initialisée. Voilà, on va le faire en mode chaîne. Voilà, donc j'ai une méthode appelée en post qui va me permettre de récupérer mon contexte, qui va me permettre d'initialiser les informations pour une liste et de la créer, d'activer le versioning, là c'est juste un petit plus, de récupérer l'information, mon objet, ma liste. Encore une fois, je pourrais cibler plus finement, on l'a vu avec les lambda expression. Je fais mon execute et je récupère dans mon viewBy l'ID que je vais afficher. Voilà, ça sera pas très sexy, mais ça permettra d'avoir l'information. Je vais donc créer ma vue, tant qu'à faire. Qui ne va pas faire grand chose. Liste créée. ID égale, et puis donc notre viewBy listID. Voilà. Et autre point, évidemment, il va falloir que je modifie, j'enlève un peu tout ça. Je vais créer un petit formulaire qui va me permettre d'envoyer, de créer la liste. Donc, je crée un nouveau formulaire vers mon action en forme méthode, pardon, en post. Voilà. Et je vais la faire à l'ancienne avec mes inputs. Donc mon list title. On va mettre une valeur par défaut. Voilà. Tac. Donc on demande le nom de la liste. On soumet. Voilà, donc bon, formulaire très très basique, mais j'ai pas besoin de plus. Je vais envoyer mon information auprès de mon action. Nouvelle liste. Directement. Dernier petit point, donc là c'est une des méthodes, on pourrait en trouver d'autres, qui est envoyée à SharePoint au départ. Donc je vous disais notamment il y avait des chaînes, des informations passées par URL, en GET, à notre application lors de son lancement, sur la première exécution. Donc les informations de contexte, vous allez avoir besoin de les persister, donc vous pourriez les mettre dans des cookies, vous pourriez les mettre en base et avoir un petit système de par URL que vous transbalutez un peu partout. Ici, je vais vous proposer de modifier légèrement le filter, voilà, le SharePoint context filter attribute et no helper, le SharePoint context et token helper qu'on va voir juste après, pour mettre en session ces informations, le nécessaire. En gros, vous allez devoir garder en session, en tout cas le garder quelque part, le jeton d'authentification qui va être passé. Donc on est ici en mode cloud, vous allez avoir un token. Et puis l'URL du site source, parce que ça va vous permettre évidemment de l'appeler, utiliser pour créer le contexte et de l'appeler pour faire vos actions. Donc au niveau du filtre, donc si mon contexte, si je n'ai encore rien dans la session, pardon, HTTP contexte. Donc aspect host URL. Dans ce cas-là, je vais les initialiser. Et donc là, ça ne s'invente pas, hein, je le mets directement, mais je vais récupérer depuis mon contexte des paramètres. Et donc il y a un ASP host URL. Voilà. Et on va avoir aussi une autre variable qu'on va garder en session, qu'on va appeler ASP app token, et qui lui aussi. Pardon. Et passer en paramètres. Donc ensuite, donc ça c'est initialisé, c'est à la première appel de notre application, on va pouvoir récupérer, capter ces informations et les mettre en session. Maintenant, je vous disais, on a un SharePoint context, un objet SharePoint context et un token helper, qui sont deux classes qui vont me permettre de récupérer plus simplement le contexte courant pour le SharePoint context. Donc toutes ces informations là, notamment le host URL, c'est pas pour rien que je l'ai mis ici. Dans ce contexte-là, on va avoir notre get sp host URL. Donc par défaut, il cherche à l'avoir ici par query string. Évidemment, si ensuite je me balade ou si je fais mon post, je n'aurai plus ces informations directement. Donc je vais regarder si, eh bien, si je ne l'ai pas. Récupérer. Eh bien, je vais le récupérer cette fois-ci. On parle depuis la query string, évidemment, mais depuis. Voilà, depuis ma session sp app token. Pas le app token, par exemple, sp host URL ici. Voilà. Donc, ça, c'est ma deuxième chance. Si j'ai récupéré. Si je l'ai dans la session, je vais pouvoir le récupérer, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, au premier appel, j'initialise, je récupère. Le deuxième coup, si je ne le trouve pas en query string, je vais chercher ici dans la session. Et de manière similaire ici, le token helper, bah lui cette fois-ci, ce n'est pas pour récupérer le contexte SharePoint au niveau de la source, etc. Ça va être au niveau notamment du jeton d'authentification. Donc là, il y a plusieurs méthodes qui existent, hein. Et ça va être un get token. Voilà. Ici, on cherche à récupérer le jeton par rapport à notre requête courante. Ici aussi, il essaie de l'avoir par formulaire, par query string. Mais s'il ne l'a toujours pas, évidemment, on va utiliser notre session. Donc, si. Sinon, même, on va voir. Si notre request. Contexte. Notre session sp app token est différent nul, donc on va mettre le caster ici. Eh bien, on va le réutiliser, évidemment, on va le retourner. Voilà. Donc pourrait vous servir du code source hein, qui va être proposé avec ce cours pour les récupérer plus facilement. Voilà. Mais en gros, voilà, la session, c'est un des moyens de persister cette information assez simplement. Bien, on a fait toutes nos modifications. Un peu de la plomberie, je vous disais, avec cette modification du contexte du token helper. Mais réellement, ce qui nous intéresse presque le plus, c'est réellement cette partie application. C'est ce qu'on va faire dans l'application. Donc maintenant, je vais pouvoir débugger. Donc j'ai juste un petit F5 à appuyer. Je vais mettre juste avant aussi un autre point d'arrêt ici. Vous vous souvenez, j'avais mis un point d'arrêt. J'avais mis un point d'arrêt. J'avais mis l'URL du site de développement comme URL de debug pour mon application. Donc le package va être déployé évidemment sur le site SharePoint. Une fois qu'elle a été installée, enfin téléchargée, elle va être installée. Je vais devoir autoriser l'application, donc ça aussi c'est un point important. De manière assez similaire à ce qu'on retrouve sur les applications mobiles, même si le fonctionnement on ne télécharge pas en tant que tel une application sur son poste ici, ça reste des applications web, mais quand vous allez installer en tant qu'administrateur une application, un add-in SharePoint, vous allez la première fois autoriser l'application à utiliser ce qu'elle demande. Donc les permissions vont être demandées à l'administrateur et qui va valider ou non s'il accepte ces permissions et donc s'il installe ou pas l'application. Donc l'application, voilà. Je suis prompté en me demandant à faire confiance à cette application-là. Donc j'ai demandé les droits manage hein, sur le site web. Si j'approuve, l'application est enfin installée. Et ici, bah, je vais être redirigé directement sur l'application. Et donc elle est finie d'être installée sur mon site pour mes tests. Donc je suis redirigé vers mon application. Sachez que derrière tout ça, eh bien, il va y avoir un échange de jetons d'identité entre SharePoint Online et votre application. Notamment, on va transiter le petit jeton d'identité, d'identification de la personne, ce qui va permettre d'être ensuite envoyé à chaque appel au modèle objet client pour être certain que la personne est la bonne et qu'elle a les droits, les bonnes habilitations. Pas ce problème, voilà. Donc j'accède à ma page. Bon, si je retourne ici, je suis encore en cours de rédaction, mais j'accède à ma page et évidemment à mon. Je fais n'importe quoi. Voilà. Je récupère mon contexte, je fais mes différents appels. Mon objet user est pour l'instant pas du tout initialisé. Je fais mon execute query, donc on est en mode asynchrone, on a fait nos demandes, on appelle, et cette fois-ci, mon user est initialisé notamment au niveau du title. Donc je vais arriver sur ma page. Bienvenue, Gaëtan Rouvray. Et j'ai la possibilité de créer ma nouvelle liste, donc liste de tests. Donc plutôt bibliothèque, c'est bibliothèque. Biblio test. Mon action est appelée. Je vais l'initialiser avec notamment ce qui m'intéressait, c'était juste ici le titre de ma bibliothèque. Je l'initialise avec mes différentes informations. Encore une fois, à ce stade-là, ma liste pour l'instant n'existe pas. D'accord? On peut même le vérifier très rapidement. J'avais gardé mon site ailleurs. Voilà, donc toujours pas de bibliothèque supplémentaire. Je charge aussi ma liste pour l'afficher et je fais mon execute query. À ce moment-là, ma liste est créée. Et comme j'ai fait mon load, je récupère en plus mon identifiant que je vais afficher ici. Liste créée avec son identifiant interne, son identifiant unique. Si je rafraîchis, évidemment, ma nouvelle liste va apparaître ici, ma nouvelle bibliothèque. Bibliotest. Voilà, elle est apparue à gauche parce que je l'ai demandé. Et j'ai aussi les paramètres de gestion de version que j'ai activé en version mineure et majeure. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Le plus dur, c'est pour vous la première fois, surtout si vous ne connaissez pas encore trop l'API, SharePoint, le modèle objet SharePoint, de commencer à vous y faire. Et là, c'est vraiment de la même manière que pour les applications Office. Je vous ai dit au départ, vous avez le Dev Center Office, vous avez toute la documentation disponible, la partie API Office 365, c'est ce qu'on verra un peu plus tard dans la fin du cours. Mais aussi toutes les parties Office et SharePoint. C'est-à-dire ici développer le complément pour Office, la DIN Office ou la DIN. Voilà. Donc comment développer pour la DIN Office, les compléments Office. Ou les compléments SharePoint, et donc sinon toute la partie API en tant que telle, Office 365. Merci de votre attention. J'espère que cela vous a permis de mettre le pied à l'étrier sur le développement pour SharePoint, un in pour SharePoint. Évidemment, comme vous avez accès au code BI, vous pourrez aller beaucoup plus loin que ça. Ici, on est sur une première interaction avec SharePoint assez basique. Mais ça vous permettra de déployer ainsi rapidement, facilement de l'application pour SharePoint. À bientôt!